RMC, le grand oral des grandes gueules.
Laureline Seriès, bonjour.
Bonjour les GG.
Merci d'être avec nous, directrice générale. Et alors là, on va trancher le débat tout de suite. De Uber France, de Uber France, comment dit-on ?
Alors comme vous voulez, mais moi je dis Uber.
De Uber France, donc j'avais raison.
Uber, c'est à la fois, ce sont à la fois les chauffeurs VTC, ce sont aussi les livreurs. Pour les chauffeurs, ça a dû être, la période a été terrible, la période du Covid, puisqu'il y a eu des confinements, plus d'activités, des couvre-feux, plus de raisons de se déplacer. Où ça en est ? Est-ce que l'activité a repris ?
Alors effectivement, ça a été une année très difficile, l'année écoulée depuis mars 2020. On a observé, en fait, et pas seulement en France, mais vraiment au niveau mondial, une baisse d'activité qui a pu aller jusqu'à moins 90%. Donc ça a été terrible en termes d'activité. C'était remonté l'année dernière à peu près à 70% en France du niveau d'activité normal, parce que les conditions sanitaires avaient été améliorées. Et à nouveau, ça a replongé. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis plus d'un an, on est effectivement content parce qu'on voit la reprise se profiler. On était à 70% de reprise au 19 mai, et là, on approche même les 75%. Donc un niveau qu'on n'avait pas réatteint depuis le mois de mars l'année dernière.
Il y a combien de chauffeurs Uber en France ?
Alors, en temps normal, à peu près 30 000. Donc, c'est un nombre qui est conséquent, effectivement.
30 000.
Qui ont une moyenne d'âge de combien ?
Alors, la moyenne d'âge des chauffeurs sur la plateforme Uber, c'est 39 ans.
39 ans.
Quand on est chauffeur Uber, on est chauffeur pour plusieurs plateformes ou uniquement Uber ?
Alors, vous êtes un chauffeur, vous êtes dans la très grande majorité des cas, ils sont indépendants. Et donc, les chauffeurs, c'est vraiment leur choix de travailler soit à titre privé. Vous avez des chauffeurs qui ont leur propre clientèle privée, qui travaillent aussi avec Uber, bien sûr, mais potentiellement avec d'autres plateformes. Et ça, c'est leur choix et leur liberté.
Alors, on y va, Christian.
Travaille qu'avec Uber ?
Alors probablement, nous on n'a pas forcément la possibilité de le voir, parce que ce qu'on peut voir, c'est le nombre d'heures qu'ils réalisent avec nous sur la plateforme. On ne voit pas nécessairement ce qu'ils font en dehors, donc on ne le sait jamais avec certitude. Mais par contre, on voit bien, oui, vous avez à peu près 25% des chauffeurs qui font moins de 20 heures par semaine, donc pour qui ça peut être un complément de revenu d'une autre activité, ou parce qu'ils travaillent avec d'autres plateformes, et puis vous avez d'autres qui manifestement travaillent à temps plein.
Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre, comment vous arrivez à passer à travers les mailles du filet, parce que moi, en tant que chef d'entreprise, si j'embauche un auto-entrepreneur, on va me dire, et qui travaille que pour moi, c'est du salariat déguisé. Donc ça tombe, le statut tombe. Comment vous arrivez à passer à travers ces mailles du filet ? S'il travaille que pour vous, c'est donc du salariat déguisé.
En fait, c'est la possibilité qui est laissée au chauffeur de choisir la plateforme pour laquelle il travaille. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun élément dans les contrats, dans les éléments qu'on signe avec nos chauffeurs qui les oblige à quoi que ce soit. Ils ont la liberté totale du nombre d'heures qu'ils font avec nous, de quand ils se connectent, quand ils se déconnectent. Donc, de ce point de vue-là, c'est clair et transparent. Et
oui, mais ça peut être transparent. Moi, si je le fais, même si c'est le choix de l'auto-entrepreneur, on va dénoncer le contrat. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à faire ça. Donc, il y a un flou, un petit flou, là, une petite brèche
Illégal.
Il y a une réalité. On opère en fait depuis, je dirais, une dizaine d'années dans une forme de flou juridique. Uber fête en France, c'est 10 ans cette année. Je précise à cette occasion que la France était le premier pays qui avait été choisi à l'international par Uber pour se développer. Donc c'est une longue histoire en France. Et effectivement. Depuis ça, on opère dans un cadre juridique qui n'est pas encore très clair. Il existe aujourd'hui des chauffeurs qui vont devant les tribunaux et qui demandent la reclassification. Reclassification, c'est-à-dire le fait de devenir un salarié, ça arrive. Néanmoins, effectivement, dans la vingtaine de cas qui ont été jugés sur l'année écoulée, il y en a 17 qui ont conduit à la conclusion que les chauffeurs étaient soit des indépendants ou soit les conseillers des prud'hommes ne se sont pas mis d'accord et ont renvoyé l'affaire en départage. Mais donc, il y a un grand flou. Ce que ça veut simplement dire, c'est que les juridictions ne sont pas d'accord. Et en fait, la réalité, il me semble, de la question qui est posée derrière ça, moi, quand je discute avec les chauffeurs, j'ai pris mes fonctions il y a un an, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée sur le terrain au mois de septembre et octobre dernier. J'ai passé ces deux mois à aller à la rencontre des chauffeurs un petit peu partout en France. Je suis allée à Toulouse, je suis allée à Bordeaux, évidemment à Paris, un petit peu partout, et j'ai discuté avec eux. Alors, je peux vous dire, les discussions ont parfois été animées, mais je peux aussi vous dire que sur les centaines de chauffeurs que j'ai rencontrés, j'en ai pas un seul qui est venu me voir en me disant « Madame Seriès, mon problème principal avec Uber, c'est que je veux devenir salarié. » Et quand on leur demande de manière statistique, 89% nous disent « Je choisis ce métier parce que je veux être indépendant. »
Je suis mon propre patron, quoi.
Exactement.
Quand on discute avec eux, il se trouve qu'on en prend souvent, puis en plus ce sont des auditeurs, souvent des grandes gueules, donc on discute. C'est vrai qu'il y a... Moi, ce que j'aime bien chez Uber, c'est que ça fait développer chez ces jeunes ou ces moins jeunes le sens de l'entrepreneuriat, en fait. Voilà, je veux être indépendant, je monter ma boîte, j'organise ma vie. Ça a donné beaucoup de boulot quand même à des gens qui n'en avaient pas. Donc vous avez en fait créé une activité qui était qui manquait en fait.
Il y a une fierté, il y a clairement une fierté quand vous parlez avec les chauffeurs, il y a une fierté d'exercer leur métier, ils se sentent responsables de la qualité du service qu'ils rendent, effectivement il y a vraiment un état d'esprit d'entrepreneur. Et effectivement en termes de création d'emplois, on parle de 30 000 chauffeurs en France aujourd'hui. Si on regarde sur les 10 années écoulées, au total sur les 10 années, ce sont 70 000 personnes qui ont pu bénéficier d'un travail grâce à Uber.
Alors Benjamin Cauchy.
Alors moi j'avais une question, vous disiez que la moyenne c'était 20 heures par mois, c'est ça?
Non.
Par semaine?
Non, en fait 20 heures par mois, je disais que 25% des chauffeurs travaillent moins de 20 heures.
D'accord, et quel est le montant moyen que vous versez par mois à un chauffeur? Pour savoir un petit peu si finalement la prestation que vous offrez aux clients, et j'en fais partie, hein, quel est le salaire, enfin on va dire la prestation moyenne que vous versez chaque mois à un chauffeur Uber? Est-ce que finalement c'est un part-job comme on dit aux États-Unis? Est-ce que c'est un petit boulot d'appoint ou est-ce que c'est un vrai boulot? Parce que derrière il y a des investissements, il faut qu'ils achètent un véhicule, il faut qu'ils l'assurent, il faut qu'ils aient de l'essence, ils sont payés sur une distance et non pas sur du temps comme les taxis. Donc les bouchons qui vont reprendre, j'en ai pris un hier, il m'a dit oh là là, les bouchons vont reprendre pour une course de 10 euros, si je mets une heure je suis perdu, je gagne rien. Donc quelle est la prime moyenne que vous versez à vos chauffeurs par mois?
Alors la réponse que je vais vous faire, c'est une réponse hors crise. Évidemment la période de Covid a été une période difficile, mais en temps normal, en fait avant la crise, le revenu, parce qu'on parle pas de salaire bien sûr, le revenu horaire moyen versé aux chauffeurs était de 24,81 € brut, c'est-à-dire c'était la part nette des frais de service d'Uber qui était versée au chauffeur. Et donc quand vous prenez, parce qu'évidemment le chauffeur derrière a sa structure de coûts, il paye son essence ou son gasoil, il paye sa voiture, il l'amortit, il a des frais. Quand vous prenez la structure de coûts et que vous la descendez, ça faisait une moyenne de 9,15 € de l'heure net pour le chauffeur, ce qui se compare au SMIC par exemple qui est à 8,11 €, donc légèrement au-dessus du SMIC. Et si vous prenez une moyenne, parce que les indépendants en France travaillent 42 heures par semaine, ça fait un revenu mensuel de 1 617 €.
Et est-ce que vous allez encore baisser, faire baisser ou pas?
Alors c'est pas l'optique, et quand on
parce
parle
que moi, avec chauffeurs... je vous dis ça parce que c'était la crainte d'un chauffeur il y a encore quelques jours en disant si jamais on tire encore les tarifs vers le bas. Pour les clients, nous les chauffeurs, on est mort et moi j'arrête quoi. Voilà.
La démarche en fait a été plutôt au contraire évidemment, et au regard de la crise, d'être dans une démarche de soutien par rapport aux chauffeurs. Donc je pourrais y revenir, mais pour répondre à votre question précisément, non. Et quand moi je suis allée à la rencontre des chauffeurs en septembre et en octobre dernier, encore une fois, la première thématique dont ils parlent quand ils nous parlent à nous, c'est les revenus. Et aujourd'hui, sur les revenus, quand on décortique, en fait, ça fait 3 années d'affilée qu'on organise une grande consultation. Donc, on vient de terminer la consultation 2021. J'étais vraiment très heureuse de constater que 10 000 chauffeurs ont répondu à l'appel. C'est-à-dire 10 000 chauffeurs se sont mobilisés pour nous répondre.
Tiers, quand même.
La thématique, oui, et puis moins si vous prenez ceux qui sont actifs en ce moment, même, enfin, plus en proportion du coup. Mais du coup, la thématique numéro 1, c'est celle des revenus. Et à l'intérieur des revenus, c'est le sujet des courses courtes et de la tarification des courses courtes. Et c'est typiquement le genre de sujet. On n'a pas abordé cet aspect-là, mais sur lequel je serais vraiment heureuse de pouvoir bouger et de faire des avancées dans le cadre...
Pour que sur les courses courtes, ils puissent gagner un petit peu mieux leur vie.
Gagner un petit peu plus, et c'est important que ça s'organise au niveau sectoriel. Et c'est pour ça que je salue vraiment le travail qui a été fait par le gouvernement et l'ordonnance qui vient de sortir, qui a établi le dialogue social entre les plateformes et les chauffeurs.
Moi, j'ai été auto-entrepreneur et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on me donnait mes horaires de 8h à 17h et je faisais que ça, quoi. Et donc, du coup, en fait, je travaillais comme un salarié, mais j'avais pas la reconnaissance du salarié. Donc, il y en a qui font des petites courses. Mais pour ceux qui vraiment travaillent à Uber comme des salariés, est-ce qu'il y a une volonté de faire un geste vers ces gens-là? Et j'ai une deuxième question, c'est qu'au bout d'un moment, on va avoir une législation sur ce flou juridique-là. Et est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que vous cherchez à y contribuer?
Alors, sur votre première question, juste pour clarifier, quand vous dites travailler comme des salariés, vous voulez dire un nombre
d'heures conséquent? Ça veut dire faire son 35 heures par semaine.
Oui.
Et il y en a beaucoup qui le font.
Alors, les chauffeurs, en fait, effectivement, il y en a qui le font et qui se connectent un nombre d'heures important par semaine. Pour eux, on a un programme particulier qui s'appelle Uber Pro, dont les chauffeurs nous disent d'ailleurs qu'il n'est pas assez bien. Donc, il faut qu'on l'améliore, on va y travailler. Mais on réfléchit effectivement à améliorer, en gros, la reconnaissance et la fidélité des chauffeurs. Et c'est quelque chose qui est ressorti dans la consultation cette année, en effet. Voilà, néanmoins, je tiens quand même à préciser que le chauffeur qui fait le choix de travailler 35 heures sur la plateforme a, encore une fois, la liberté totale de ses horaires, des jours où il travaille,
il travaille plus que 35 heures pour, ouais, pour gagner sa vie.
Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le revenu qui est offert au chauffeur par heure, et je ne parle pas d'heures en course, je parle d'heures connectées sur la plateforme qui cumulent le temps d'attente et le temps en trajet. C'est 9,15 € de l'heure. Donc ensuite, vous multipliez, si vous travaillez plus de 35 heures, vous allez toucher plus.
Mais il y a les chauffeurs, il y a aussi les livreurs de repas qui sont souvent en première ligne face aux agressions, aux violences. Dernièrement, on vient de parler d'un livreur à Cergy qui s'est fait taper dessus et insulté. L'auteur a été d'ailleurs interpellé. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont un peu laissés aussi face à cette violence de la société.
Alors, je vais vous répondre du mieux que je peux. Je vous précise simplement que pour ma part, je suis la directrice d'Uber France, la partie VTC, pas la partie Hits. Néanmoins,
mais il y a des chauffeurs aussi qui sont agressés. J'ai eu des témoignages de chauffeurs en disant, vous parlez toujours de notre accueil, la façon dont on accueille les clients. Vous parlez jamais de la façon dont certains clients peuvent se montrer très agressifs, voire violents. Alors peut-être qu'il y a aussi un effet post-Covid où il y a quand même des gens qui sont prêts à péter des plombs assez rapidement.
Oui, et puis je vais vous répondre sur les deux aspects. Mais évidemment, et donc je condamne extrêmement fermement ce qui s'est passé. Alors il y a eu l'incident pour le livreur à Cergy. Quelques jours avant, il y avait eu une autre agression d'une personne qui avait été aussi violemment agressée et discriminée, un autre livreur d'ailleurs. Donc la première chose, c'est qu'on condamne extrêmement fermement, et moi la première, ce type d'acte, c'est très clair. Dans les deux cas, les deux incidents qui sont survenus pour des livreurs ces derniers jours, la suspension en l'occurrence du client qui avait commis ces actes-là a été immédiate. On se met en relation immédiatement dans ces cas-là, en l'occurrence avec les livreurs. On les aide dans leur démarche pour porter plainte. Et dans le cas de la personne qui a même été agressée physiquement, en fait, on va l'accompagner dans ses démarches, le suivre. Et dans son cas, si jamais il s'avère qu'il a un arrêt de son médecin lié à ça, on fera jouer en fait l'assurance que nous contractons du côté Uber, qui est valable du côté des VTC comme des livreurs, et qui est une assurance prise en charge à 100% par Uber auprès d'AXA, et qui permet d'être couvert de ses revenus en cas de problème et d'incapacité de travailler lié à un accident, par exemple.
Benjamin Cauchy. J'avais une question. Que ce soit les chauffeurs ou les livreurs, lorsque vous allez chez votre banquier, par exemple, lorsque vous allez chez votre épicier, vous vous attendez à ce que votre banquier ou votre épicier parle français. Est-ce que vous avez une charte, ou est-ce que vous avez imposé le fait que tous les chauffeurs soient francophones? Moi, je trouve que avoir des chauffeurs qui soient polyglottes, c'est très bien. Mais il m'est déjà arrivé, c'est mon expérience, d'avoir des chauffeurs qui n'ont su que me parler anglais. Donc, je voulais savoir si c'était... Alors, pour les chauffeurs, ça c'est certain. Alors, pour les livreurs, c'est encore pire. Moi, je voulais savoir si vous aviez également... Vous vous appelez non pas Uber, mais Uber France. Vous souhaitez vous intégrer au paysage français. Vous êtes une entreprise de service, et j'ai même envie de dire de proximité, parce que vous prenez les gens dans leur voiture, ou alors vous allez apporter à manger devant le paillasson. Est-ce que vous vérifiez si tous les chauffeurs sont francophones?
Alors tous les chauffeurs qui utilisent la plateforme Uber sont de manière systématique accueillis une première fois avant de commencer leur premier trajet, accueillis dans nos centres d'accueil pour les chauffeurs un petit peu partout en France. Donc on les rencontre et on les reçoit. Et j'en profite aussi pour préciser que devenir VTC en France, c'est recevoir une habilitation de l'État qu'on retire en préfecture. Ça nécessite de passer, au même titre d'ailleurs que les taxis, ça nécessite de passer une formation, de passer un examen et d'obtenir cette carte de VTC. Que cet examen, il comprend un certain nombre de questions, il comprend aussi une partie théorique, mais aussi une partie pratique, et que donc nécessairement le français est vérifié. Après, quand on regarde dans les statistiques, tous ne sont pas d'origine française.
Ça, c'est pas...
C'est vrai.
Ça, c'est
un autre
sujet, ça.
Mais la partie française est vérifiée de cette manière-là. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, être un chauffeur Uber, c'est aussi un tremplin et un accès à la profession. C'est important parce que c'est important de savoir qu'en dehors de ces aspects-là, qui sont des aspects de régulation d'État, il faut savoir qu'on ne demande pas de CV. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de discrimination à l'emploi quand vous travaillez, quand vous décidez de travailler avec la plateforme Uber. Vous n'avez pas de CV. Vous n'avez pas de lettre de motivation ou de choses comme ça. On vous demande simplement votre diplôme de VTC.
Et comment vous contrôlez régulièrement s'ils ont bien leur permis, s'ils n'ont pas commis d'infraction, s'ils sont toujours assurés, s'ils sont toujours dans la légalité, la plus totale?
Alors on contrôle beaucoup de choses. On contrôle quand ils s'inscrivent la première fois le casier judiciaire. On contrôle évidemment le permis, la carte VTC. Il y a une vingtaine de documents qui sont vérifiés au total. Et ensuite on a l'obligation légale de recevoir tous les chauffeurs une fois par an. Et en plus, effectivement, pour contrôler s'ils sont des vrais chauffeurs, ça ne suffit pas.
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on a mis en place. Vous avez quelqu'un qui a pris, qui a eu l'habilitation VTC, mais finalement qui entre guillemets sous-loue. Oui. Et du coup, parfois, moi, je me suis posé la question. J'ai eu des
chauffeurs. On a mis en place.
On a eu le cas. Moi aussi, j'ai eu le cas. C'est mon cousin qui m'a filé la bagnole. Voilà. Et puis ensuite, tourner la voiture 24 heures sur 24, quoi. Donc,
c'est des choses qu'on a entendues et qu'on a, honnêtement, de ce que nous disent les chauffeurs eux-mêmes. J'en parlais encore ce matin avec le chauffeur qui m'accompagnait aujourd'hui. Il y a eu une très nette amélioration et qui a été liée à l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité dans l'application qui consiste à demander au chauffeur de prendre un selfie. Donc entre deux courses, de temps en temps et de manière complètement aléatoire, de manière à ce que le chauffeur ne puisse pas savoir quand ça se passera, on lui propose de se prendre en photo de manière à ce qu'on puisse comparer la photo qu'il prend avec la photo qu'on a vérifiée nous-mêmes en centre Uber, de manière à ce que on s'assure de l'identité. Et depuis qu'on fait ça, quand on constate une anomalie, évidemment, on désactive le compte du chauffeur.
Ce serait quand même assez simple de se dire que dans le système de connexion, on puisse pas être connecté plus de 10 heures par jour, par exemple, je sais pas. Parce que...
Alors nous, on fait ce type de contrôle-là, on le fait. La chose qu'on ne peut pas faire, c'est de contrôler, bien sûr, quel est le temps cumulé entre la plateforme Uber et les autres plateformes.
L'ubérisation de la société, c'est devenu une expression. Uber a donné... Alors, c'est souvent péjoratif. On dit, voilà, on ubérise la société, il n'y a plus de salariat, que des gens indépendants, utilisables, jetables, ça tire le niveau vers le bas. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat ?
Et je pense qu'il existe et qu'il faut évidemment pas le nier. Et je pense que la question sous-jacente qui est posée, enfin que nous posent nos interlocuteurs, que nous posent les chauffeurs, leur question numéro un, c'est vraiment les revenus. Mais en dehors de ça, la question de la protection est aussi centrale là-dedans. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un nouveau modèle à inventer. Je pense que l'indépendance est un beau statut. Je pense que les chauffeurs le revendiquent, ce statut. Mais la question, c'est comment on peut faire pour, en France, être indépendant et
protéger.
Avoir de la protection, exactement. Et donc c'est ça le débat, et à ce niveau-là, je salue vraiment l'initiative en France d'instaurer le dialogue social. Je pense que le dialogue social est le véhicule qui a prouvé par le passé...
On peut s'indiquer maintenant chez Uber.
Les chauffeurs, je les y encourage vivement, évidemment. Et alors, eux-mêmes sont en train de se structurer, bien sûr, parce qu'il y a des syndicats qui existent. Il y en a d'autres, probablement, qui vont se créer dans les mois à venir. Et le but, ça va être de pouvoir engager.
Johnny va dire que c'est la fin.
Merci, Laureline Sériez, d'être venue répondre en toute franchise aux questions des GG, directrice générale d'Uber France. Merci d'avoir été avec nous.